What's Up, le podcast zéro émission par Automobile Propre.
Un très gros gadin pour les ventes de voitures électriques en Allemagne. Volkswagen a la peine avec sa gamme électrique. C'est prouvé par une étude, l'adoption des voitures électriques fait baisser le taux de CO2. La Norvège est sans surprise et de loin le pays le plus avancé dans l'adoption des véhicules électriques, chiffre à l'appui. Tesla abandonnerait sa future petite modèle 2, Info ou Intox. Et enfin, Alfa Romeo lance le Milano, son premier SUV urbain 100% électrique. Voilà pour les grands titres de l'actualité de la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'interview du cofondateur d'une start-up spécialisée dans le financement des flottes de véhicules utilitaires électriques pour les entreprises. Bienvenue dans le podcast What's Up par Automobile Propre, épisode 112 du 13 avril 2024. Cet épisode bénéficie du soutien de cartegrise.com, une référence dans le domaine des démarches liées à la carte grise depuis plus de 15 ans. Vous connaissez probablement les tracas administratifs liés à l'obtention d'une carte grise, hein. On sait que ce n'est pas toujours très simple. Eh bien, cartegrise.com simplifie cette démarche pour vous. En utilisant leur service en ligne, vous pouvez effectuer votre demande rapidement et en toute simplicité. Ils sont agréés par l'État et promettent de traiter votre demande en moins de 24 heures. Vous recevrez ensuite votre nouvelle carte grise chez vous en seulement 2 à 3 jours. Donc si vous vous trouvez dans la situation parfois compliquée de devoir mettre à jour votre carte grise, pensez à cartegrise.com. Ils sont là pour vous simplifier la vie sans tracas inutiles, un partenaire fiable pour toutes les démarches liées à la carte grise. Et un grand merci à eux pour leur soutien à notre émission.
L'actu de la semaine.
Les ventes de voitures électriques ont chuté de 29% en mars 2024 en Allemagne par rapport à l'année précédente. Leur part de marché est passée à seulement 12% contre 18,4% en moyenne en 2023. Cette baisse importante est attribuée à l'arrêt des primes gouvernementales pour l'achat de véhicules électriques. Malgré les rabais des constructeurs, les consommateurs hésitent désormais à opter pour l'électrique sans les aides financières. Cependant, le gouvernement allemand et l'Association des constructeurs automobiles internationaux maintiennent l'objectif de l'Union européenne d'arrêter les ventes de voitures thermiques d'ici 2035. Ils jugent contre-productif de remettre en cause cet objectif malgré le ralentissement actuel du marché électrique. La chute des ventes électriques a entraîné un recul de 6,2% du marché automobile allemand dans son ensemble en mars 2024. Volkswagen reste cependant le leader des ventes devant Mercedes et BMW. Concernant Volkswagen, justement, bien que les ventes totales du groupe aient augmenté de 3% au niveau mondial au premier trimestre 2024, les ventes de véhicules électriques ont chuté de 24,3% en Europe sur cette période. Le groupe allemand n'a livré que 74 400 modèles électriques à des clients européens entre janvier et mars 2024, contre 98 300 un an plus tôt. Volkswagen est cependant sauvé par les ventes des thermiques. Cette forte baisse des ventes électriques en Europe a été compensée par une hausse des livraisons de modèles thermiques, permettant à Volkswagen d'afficher une croissance globale de 3%. Contrairement à Volvo, plus 27% et BMW, plus 40,6%, qui ont vu leurs ventes électriques progresser, ce sont les motorisations traditionnelles qui ont porté les résultats de Volkswagen ce trimestre. D'autres marchés sont contrastés. Aux États-Unis, les ventes électriques de Volkswagen ont également reculé de 16,2%, mais elles ont bondi de 91,2% en Chine et de 40,6% dans le reste du monde. Malgré ce recul en Europe, le groupe Volkswagen reste optimiste et espère rattraper son retard d'ici à la fin de l'année 2024. Une équipe de chercheurs de l'université de Berkeley en Californie a mené une étude qui démontre que le déploiement des voitures électriques entraîne une baisse significative des émissions de dioxyde de carbone, CO2. Entre 2018 et 2022, les chercheurs ont installé des capteurs autour de la baie de San Francisco pour surveiller les niveaux de pollution et de CO2. Ils ont constaté une baisse annuelle de 1,8% des émissions de CO2 provenant des véhicules. En comparant ces données avec la courbe d'adoption des véhicules électriques dans la région, ils ont établi un lien direct entre l'électrification du parc automobile et la réduction des émissions de CO2. Le professeur Ronald Cohen, à l'origine de l'étude, affirme que les mesures atmosphériques montrent que l'adoption des véhicules électriques fonctionne et qu'elle a l'effet escompté sur les émissions de CO2. À l'avenir, les chercheurs envisagent d'utiliser les satellites pour surveiller les niveaux de CO2 et l'impact de l'électrification des transports, en complément des mesures au sol. Cette étude apporte ainsi une preuve concrète que la transition vers les véhicules électriques permet de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre dans les zones urbaines. La Norvège est le pays le plus avancé dans l'adoption des véhicules électriques, on le savait déjà, mais c'est confirmé. En 2023, 82% des voitures neuves vendues étaient 100% électriques, et ce chiffre frôle les 90% sur les premiers mois de 2024. Le gouvernement norvégien prévoit d'interdire la vente de voitures thermiques neuves d'ici 2025, une première mondiale. Si la tendance se poursuit, il y aura bientôt plus d'électriques que de voitures à essence sur les routes en Norvège, probablement d'ici la fin 2024. Les modèles électriques les plus vendus en 2024 sont la Tesla Model Y, sans surprise, le Volkswagen ID.4, le Skoda Enyaq, le Toyota BZ4X et le Volvo XC40. La Norvège confirme ainsi son statut de pionnier mondial dans la transition vers la mobilité électrique, avec une adoption massive des véhicules zéro émission qui devrait dépasser les thermiques cette année. Selon l'agence Reuters, citant trois sources proches du dossier, Tesla aurait annulé le développement de sa voiture électrique à petit prix, prévu autour de 25 000 euros et surnommée Model 2, pour ce qu'on en sait pour le moment. Reuters, dont l'affirmation a été largement contestée depuis, affirme avoir vu des messages internes à Tesla faisant état de cette décision prise en février 2024. La Model 2 aurait été abandonnée au profit du développement d'un robot-taxi, le projet de navette autonome très prisé par Elon Musk. Tesla jugerait que son taxi autonome aurait plus de potentiel pour se démarquer, tandis que la Model 2 à bas prix aurait dû affronter une rude concurrence, notamment des constructeurs chinois et même européens. Elon Musk a réagi en traitant Reuters de média en train de mourir, sans toutefois démentir formellement l'information. Cet éventuel abandon de la Model 2 surprend, Elon Musk ayant souvent évoqué son souhait de proposer une Tesla plus accessible pour démocratiser davantage la marque. Si cela est confirmé, cela remettrait en cause la stratégie d'élargir la gamme vers le bas avec un modèle d'entrée de gamme qui était présenté comme la prochaine étape majeure pour booster les ventes de Tesla. Enfin, Alfa Romeo lance le Milano, son premier SUV urbain 100% électrique. Long de 4,17 m, ce modèle compact inaugure les nouveaux codes stylistiques de la marque italienne, avec des clins d'œil au design emblématique d'Alfa Romeo. Le Milano propose deux niveaux de puissance, 156 chevaux avec une autonomie de 410 km, ou une version plus sportive Veloce de 240 chevaux. Il offre également le plus grand coffre de sa catégorie avec 400 litres de volume. Positionné comme l'entrée de gamme électrique d'Alfa Romeo, la Milano marque un tournant pour la firme qui embrasse ainsi la mobilité zéro émission.
L'interview de la semaine.
Les flottes commerciales jouent un rôle essentiel pour des pans entiers de l'économie moderne. Elles représentent 1,9 million de véhicules vendus par an, soit environ 100 milliards d'euros d'investissement qui pourraient être fléchés vers des modèles électriques. Pelican Mobility, une plateforme deep tech qui optimise le financement des flottes de véhicules commerciaux, vient de lever 4 millions d'euros pour lancer sa solution de location longue durée, conçue spécialement pour des véhicules électriques. Pour en parler, je reçois l'un de ses cofondateurs et dirigeants, David Salfati. Bonjour David Salfati.
Bonjour Eric.
Vous êtes cofondateur de Pelican Mobility, une plateforme de smart leasing qui optimise le financement et les opérations des flottes de véhicules commerciaux. Pouvez-vous nous présenter la société en quelques mots ?
Oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup de nous recevoir dans votre podcast et de nous parler un petit peu de Pelican. Donc, Pelican, comme vous l'avez mentionné, c'est une plateforme de smart leasing, qui est un terme un peu barbare, mais on voit ça comme l'équivalent de la recharge intelligente, mais pour le leasing de véhicules électriques. Et notre ambition, c'est de faire baisser très fortement les coûts de l'électrification des flottes utilitaires, logistiques, lorsqu'elles passent électriques.
Alors oui, le smart leasing, on va revenir dessus en deux mots, c'est quoi ? Ça se décrit comment ?
Peut-être repartons de l'ambition. Nous, on veut faire baisser les coûts de l'électrification des flottes utilitaires. Une flotte utilitaire, c'est avant tout un outil de travail. Et donc, si vous voulez faire baisser les coûts de l'électrification, il y a vraiment deux composantes à prendre en compte. Il y a le TCO, le coût des véhicules. Et là, pour faire baisser le TCO des véhicules électriques, il n'y a pas de secret, il faut capitaliser sur ce qu'ils ont à offrir, les coûts d'opération qui sont faibles, une très bonne durabilité en tant qu'actif. Donc voilà, il faut faire baisser le TCO, mais il faut aussi augmenter la productivité des véhicules électriques. Avoir un véhicule électrique pas cher qui reste au garage, ça ne sert à rien d'un point de vue métier. Il faut augmenter la productivité des véhicules électriques. Et donc le smart leasing, c'est une approche qui vous permet de gérer les deux composantes à la fois. De mettre en place des solutions de financement adaptées aux véhicules électriques, nativement adaptées aux véhicules électriques, devrais-je dire, qui capitalisent au maximum sur leurs avantages, et une plateforme software d'optimisation, dont je vais vous parler si ça vous intéresse, qui va s'assurer que les véhicules sont utilisés opérationnellement au mieux de leurs capacités, et dans une, dans, au plus près des besoins opérationnels de l'entreprise. Et donc, c'est vraiment le Smart Electric, c'est vraiment la combinaison de ces deux approches. Il faut du software, il faut du financement pour être capable d'optimiser au global l'équation qui va faire que le coût va baisser pour le client.
Vous êtes plutôt une plateforme financière, une plateforme logicielle, justement ?
On est une plateforme logicielle, opérationnelle. On est très proche des opérations de nos clients et on est en train de développer la composante de financement, de location longue durée, devrais-je dire. Mais on n'est pas une banque. Notre but, okay, c'est d'avoir une offre de location adaptée aux besoins des clients qui capitalise sur ce que la tech permet d'offrir pour faire baisser les coûts.
Alors, vous vous présentez comme une plateforme deep tech. Alors, pour ceux qui ne sont pas spécialement anglophones, deep tech, ben, je ne sais pas, technologie profonde. qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous ?
C'est un terme consacré un peu dans le monde de la tech. Ça signifie qu'il y a un très gros effort de R&D pour faire ce qu'on fait et qu'on exploite des sujets qui sont peu ou prou de la recherche contemporaine en mathématiques appliquées et en IA. Mais peut-être pour mettre un peu de chair sur l'os, expliquer pourquoi est-ce que c'est compliqué et que c'est pas des choses qu'on peut faire avec Excel. Je reviens sur la partie intégrer les véhicules électriques dans les opérations des clients. Nous, notre approche pour faire ça, c'est de collecter beaucoup de données opérationnelles des clients. Donc ça peut être de la télématique, ça peut être des ordres de transport si on fait de la livraison, ça peut être tout un tas de données opérationnelles pour reconstituer un jumeau virtuel des opérations de la flotte. Donc, jumeau virtuel, c'est vraiment une représentation très fine, très réaliste de la flotte, de ses objectifs, de ses contraintes, des véhicules, le nombre, leur typologie, les solutions de recharge, et d'être capable de jouer le film, si vous voulez, de manière très réaliste. Donc ça, c'est déjà pas évident. Et sur ce jumeau virtuel, on déploie, c'est vraiment le cœur de notre solution, des algorithmes d'optimisation qui vont optimiser sur le temps long à la fois l'évolution de la base d'actifs, comment est-ce que vous passez d'une flotte thermique à une flotte électrique, quel véhicule remplacer, dans quel ordre, pour quel type de tâche, en fonction de comment ils vont être utilisés. Et là, vous êtes sur un sujet qui mathématiquement est difficile, parce que vous devez optimiser à différents pas de temps, différents types d'actifs, et c'est là où il y a un très gros effort de R&D, d'où le deep tech.
Et le jumeau numérique, il est donc basé sur des datas qui proviennent des données actuelles, c'est-à-dire d'entreprises qui utilisent des véhicules thermiques.
Oui.
Ouais, donc vous utilisez, c'est à ce moment-là que, par exemple, vous avez de l'IA qui rentre en ligne de compte pour modéliser.
Tout à fait, parce que si vous voulez, ce qui ne change pas lorsqu'on électrifie, c'est ce que la flotte a à faire. Si votre métier, c'est de transporter des fruits et légumes ou de faire des opérations de maintenance sur un réseau, que le véhicule soit électrique ou thermique, c'est l'objet de votre flotte reste le même.
Ouais.
Et ça, on peut le capter et le modéliser à partir de données historiques. Mais par contre, il faut séparer ce qui était lié à l'opération des véhicules thermiques et pour pouvoir le remodéliser avec des opérations de véhicules électriques.
Est-ce que vous rencontrez des entreprises qui n'ont pas encore travaillé ces données, c'est-à-dire je parle de PME, qui n'ont pas forcément toute l'ingénierie informatique, et qui vous disent, vous nous avez fait une étude, vous avez créé un jumeau numérique, c'est super intéressant, mais on va s'en servir pour optimiser notre flotte thermique. Ça peut arriver ce genre de choses, ou est-ce que vous allez vraiment exclusivement sur l'électrique ?
Ouais, on n'a jamais fait le coup de dire c'est super, on va rester chez vous sur le thermique pur. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on optimise, ce sont des flottes hybrides. Dès qu'il y a un véhicule électrique, on peut faire des choses. Plus il y a de véhicules électriques, plus les problèmes vont changer de nature et les solutions vont changer. Mais on n'est pas en train d'optimiser l'électrique indépendamment du reste de la flotte. C'est bien le vue holistique de la flotte qu'on prend en compte. Dès qu'on a un véhicule électrique, ça va être un premier véhicule électrique, on peut faire des choses. La nature des problèmes, la nature des solutions va évoluer à mesure qu'on va déployer de plus en plus de véhicules électriques. Ce qu'on observe quand même, et c'est très intéressant, c'est que quand on regarde l'efficience des flottes 100% thermiques, il y a toujours des optimisations, on peut toujours faire un petit peu mieux, mais il est forcé de constater qu'en fait, les flottes thermiques sont assez bien optimisées. Et ce, parce qu'on voit la trace de décennies d'expérience et de pratiques. Où en fait, les, les, l'intuition et l'expérience finit par faire avoir des très bons résultats. Donc oui, on arriverait à faire un petit peu mieux sur du thermique pur, c'est pas notre objectif, et notre objectif c'est bien d'électrifier et d'électrifier à moindre coût, hein. mais c'est intéressant de noter que quand on analyse la performance des flottes purement thermiques, on les trouve assez efficientes.
Alors à votre lancement 2022, vous aviez mis en place une plateforme, hein, vous l'avez dit, permettant d'optimiser l'usage et le profit de financement. Là, c'est quoi, là pour le coup c'était une plateforme logicielle que vous avez proposée à vos premiers clients?
Donc la vision a toujours été de monter cette offre de smart leasing, hein. Ouais. Mais il faut bien commencer quelque part, et ce qui nous a paru le choix le plus judicieux en termes de développement de la boîte, hein, c'était de commencer directement sur la tech, hein, en disant tout va passer par la constitution de ce cœur de technologie, les relations clients et la compréhension de leurs enjeux métiers, hein. Et ça, pour commencer, c'est plus facile de le faire avec du software pur. Donc on a, dès le début, hein, commencé à travailler sur ce cœur de tech. On a lancé la première version du software à l'été, donc en juin 2023. D'accord. On a signé nos premiers clients récurrents dans la foulée, et on a acquis énormément d'informations, mais aussi de feedback client, pour être sûr que le software répondait bien aux besoins. Et ça n'est que à la fin 2023 qu'on s'est dit, voilà, là on a atteint un niveau de maturité et de compréhension suffisant pour passer à l'étape 2, qui est de commencer à coupler ce qu'on fait avec des offres de location.
Votre offre concerne uniquement les véhicules utilitaires ou véhicules lourds d'entreprise, ou aussi les véhicules de tourisme, entre guillemets?
Non, on ne fait pas de VP ou de véhicules de tourisme, pour une raison simple, si je puis dire, c'est que ce ne sont pas des outils de travail. Et tout le cœur de la thèse, c'est qu'on arrive à faire baisser les coûts parce qu'on exploite les véhicules au mieux de leur capacité en fonction de ce qu'ils doivent faire. Et cette capacité d'optimisation, vous ne l'avez pas sur des véhicules privés ou de tourisme.
Un petit mot sur vous, David. Vous étiez auparavant dans le financement, dans la banque, ou plutôt du côté énergie, ou plutôt du côté software avant de lancer cette entreprise?
Alors moi, je suis énergie première langue. D'accord. Je fais toute ma carrière dans l'énergie. Alors, avec différents rôles, effectivement, j'ai été un acteur de marché. J'ai commencé ma carrière chez Engie, hein, dans le marché gaz et électricité en Europe, hein, du côté du négoce d'énergie. J'ai développé des projets d'infrastructure. Hein, et effectivement, j'ai une deuxième partie de carrière, toujours en énergie, mais cette fois-ci comme investisseur, dans une société qui s'appelle Macquarie, hein, un fonds d'investissement australien très, très focalisé énergie, infrastructure, hein, où j'ai continué à œuvrer dans les marchés de l'énergie, mais cette fois-ci avec une casquette d'investisseur. Donc voilà, mon cœur d'expertise, si je puis dire, c'est l'énergie. J'ai une solide bagage financier parce que j'ai fait de l'investissement à haute dose, si je puis dire. Et Vincent, mon associé et cofondateur, lui est à la fois un expert de l'énergie, mais aussi quelqu'un de très tech. Il a déjà monté et revendu une boîte de smart charging en Californie. Et donc, Pélican, c'est vraiment la combinaison de ces deux visions. Moi, plutôt une analyse du marché sous l'angle asset financement, Vincent sous l'angle tech, et on a réalisé qu'en fait, la combinaison gagnante, c'était bien les deux pour décarboner à moindre coût le transport commercial.
Alors, vous venez de lever 4 millions d'euros, c'est ça l'actualité, pour réduire justement le coût de l'électrification. Alors, en quoi ça consiste, cette levée, auprès de qui, et ça va vous aider concrètement dans quel domaine? Est-ce que c'est le recrutement, de la R&D?
On a fait un tour de seed, on appelle ça un tour de seed dans le jargon.
Oui, c'est-à-dire de financement d'amorçage, en fait.
D'amorçage, c'est ça, ouais. Exactement. Financement d'amorçage. Donc, 4 millions d'euros auprès de principalement trois investisseurs. Il y a des petits bouts en plus, mais principalement trois investisseurs. PayBlue Dot, qui est un fonds climate suédois, mais tout à fait remarquable. Ouais. First, qui est un fonds français. C'était très important pour nous d'avoir une composante française dans l'actionnariat. Et que lesquels on a un très bon fit culturel, je dirais. Et Seedcamp, qui sont un fonds basé en Angleterre, mais pan-européen, d'amorçage. Et voilà, on a eu un très très bon fit avec ces investisseurs qui ont, dès le début, été emballés par la vision. Et là, on voulait mener la boîte. Et donc, on a eu le privilège de pouvoir les avoir les trois au capital et avoir des investisseurs qui soutiennent à 100% le projet de la boîte. Donc, on a fait cette levée fin 2023.
Ouais.
L'objectif, c'est passer à l'étape 2 du plan, si je puis dire. La plateforme tech, on a une première version. Il y a beaucoup d'efforts de R&D à continuer à déployer hein, pour la renforcer et la développer. Hein. Mais on a aussi besoin de capital pour structurer et lancer notre offre de location. Donc, l'objet de la levée, c'est à la fois continuer à investir dans le cœur de tech et lancer notre offre de location de smart leasing.
On sait que c'est pas évident de transformer les flottes vers la transition électrique. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, en entreprise, c'est un véhicule sur 10 qui est électrifié, alors que chez les particuliers, on est plutôt sur 2 ou 3 sur 10, je ne sais plus exactement. Donc, vous rencontrez quoi comme difficulté? Qu'est-ce que vous opposent les chefs d'entreprise que vous rencontrez quand vous leur dites « on vient vous aider à électrifier la flotte »
Alors, il y a une myriade de problèmes, mais ils se retrouvent tous peu ou prou réglés une fois qu'on règle le coût. Il y a un dicton qui dit un problème que pour régler avec de l'argent, c'est pas un problème, c'est un coût. C'est un peu ce qu'on observe dans l'électrification des flottes. Il y a évidemment des problématiques sociales, de conduite du changement, d'accompagnement des collaborateurs. Il y a un peu moins de ça quand vous passez côté VU, véhicule industriel ou véhicule utilitaire, vraiment des outils de travail. Mais in fine, hein, le nerf de la guerre, c'est le coût, la productivité, le risque opérationnel. Une fois que vous avez compris que ces véhicules sont des outils de travail, hein, et ils n'ont d'intérêt que dans la mesure où ils permettent à l'entreprise de faire son activité, hein, de la faire de manière profitable, avec une qualité de service maintenue, hein, vous avez réglé 90% du problème. Oui, notre approche de smart leasing vise à faire baisser les coûts, à maintenir la productivité, à maintenir la qualité de service. Et ça n'est possible que parce qu'on a cette composante software très proche des opérations qui assure que les véhicules sont adaptés au job qui doit être fait, qu'ils sont utilisés de manière efficiente dans le contexte spécifique des opérations.
Vous rencontrez qui? C'est plutôt les DAF, plutôt les directeurs administratifs et financiers ou les responsables de flotte?
Évidemment, les responsables de flotte.
Ou les DSI aussi?
Alors, les DSI, ils viennent tôt ou tard, si je puis dire, parce qu'il y a un peu d'acquisition de données. Les meilleurs interlocuteurs, si je puis dire, ou ceux avec lesquels notre produit résonne le mieux, c'est les responsables de flotte et souvent rapportés à la direction financière, donc
oui.
Parfois les DAF, mais c'est dans cette partie de l'entreprise,
exact.
Mais également les opérationnels. Je dirais les directeurs de la performance opérationnelle, entre guillemets ceux qui ont besoin de réconcilier l'équation décarbonée à moindre coût, à qualité de service et productivité maintenue. Voilà, eux voient bien la solution qu'on apporte au problème et c'est le problème qu'ils ont à gérer.
Vous ciblez quel type d'entreprise prioritairement? Vous êtes plutôt sur des grands groupes ou plutôt sur des PME, TPE?
Non, on est plutôt sur des grands groupes pour diverses raisons, mais on est une stratégie plutôt grand compte, à la fois du côté des, je dirais, deux grandes verticales, des flottes de services, maintenance de réseau, qui sont souvent des très grosses flottes, et logistique, transport, où là, en termes de nombre de véhicules, les flottes sont mécaniquement un peu moins grosses, mais on va plutôt chez des gros acteurs parce que c'est là où la data et la complexité opérationnelle est disponible à foison. Si je puis dire.
Vous parliez tout à l'heure au début de la notion de productivité des véhicules, oui. De la notion effectivement d'outil de travail. Comment vous arrivez à rendre un véhicule plus productif? Bon, c'est-à-dire que vous arrivez avec l'étude de vos données à dire que ce véhicule n'est pas assez utilisé par rapport à son potentiel, il faudrait davantage l'utiliser et vous arrivez à établir une balance entre les différents véhicules?
Oui, tout à fait. C'est bien ça l'idée et je dirais même, on est plus prescriptif que ça, c'est comment mieux utiliser des véhicules électriques. Si vous voulez, l'intuition de fond, c'est, je disais tout à l'heure une remarque, mais qui est assez intéressante, enfin, nous, on a trouvé intéressante que les flottes thermiques sont bien optimisées. C'est vrai. Toute la chaîne de valeur, si vous voulez, de la location de véhicules jusqu'aux opérations quotidiennes, tourner à droite, tourner à gauche, est optimisée pour les véhicules thermiques. Et donc, si vous vous contentez de mettre des véhicules électriques à la place des véhicules thermiques, en réalité, ce qui va se passer, c'est que vous allez traiter vos véhicules électriques comme des mauvais véhicules thermiques. Vous allez voir les contraintes, autonomie, temps de recharge, accès à l'infrastructure,
ouais,
etc. Bizarre. Et vous allez passer à côté de tous leurs avantages. Et donc ça, le symptôme qu'on voit partout, hein, c'est des véhicules électriques qui sont traités comme des mauvais véhicules thermiques et qui sont sous-utilisés, qui, au lieu de faire 12 livraisons par jour, en font 8, hein, qui couvrent moins de distance. Et c'est là où, en fait, c'est dommage, hein, parce qu'un véhicule électrique, plus il roule, moins il vous coûte cher. Proportionnellement, en comparaison du thermique, plus il roule, plus il efface, hein, les kilométrages diesel, donc moins la flotte au total émet de CO2. Hein. vous avez envie de pousser l'utilisation de ces véhicules, hein. Mais ça, vous ne pouvez le faire que si, entre guillemets, les plans de tournée, la gestion opérationnelle, le dispatch, le scheduling, hein, est adapté aux contraintes de l'électrique. Et donc, le caractère prescriptif que j'écrivais, c'est une fois, comment prendre de manière native ces contraintes pour être sûr que les véhicules sont poussés au mieux de leur capacité, hein, ce qui, au global, fera baisser les coûts et les émissions de la flotte à risque opérationnel maintenant.
Vous avez déjà des retours de data qui vous permettent de savoir si un véhicule électrique va durer plus longtemps qu'un véhicule thermique de même catégorie ou...
Non, on n'a pas de data. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir cette data, mais ouais. Malheureusement, on ne l'a pas. Non, après, il y a des évidences. C'est un véhicule thermique, ça a moins de pièces mobiles. Un véhicule électrique, pardon, ça a moins de pièces mobiles qu'un véhicule thermique. Donc, pendant toute une phase de sa vie, vous aurez des coûts de maintenance très faibles. Par contre, le jour où ça commence à déconner, quoi. Quand vous commencez à avoir des problèmes, ça peut être des gros problèmes.
Ouais.
Mais en tout cas, pour toute une phase de la vie d'un véhicule électrique, la maintenance est faible. Et oui, il n'y a pas de raison de penser qu'un véhicule thermique électrique ne puisse pas durer aussi longtemps, si ce n'est plus longtemps, qu'un véhicule électrique. Hein. La grande inconnue, c'est la batterie. C'est la manière dont la batterie va évoluer. Hein. En tout cas, nous, notre vue là-dessus, c'est que... On n'est pas dans un monde binaire, c'est pas votre batterie s'est un peu dégradée, hein. Vous avez perdu un peu d'autonomie, donc tout d'un coup le véhicule ne vaut plus rien. Oui, il y a plein de véhicules qui ont peut-être perdu de l'autonomie, mais qu'on arrivera quand même à mettre au travail.
Alors vous intervenez finalement dans un véritable écosystème, hein, l'écosystème de l'électromobilité. Est-ce que dans ce contexte-là, au-delà de toute l'ingénierie que vous apportez, est-ce que vous avez envisagé ou est-ce que vous avez déjà approcher ou conclure des accords avec des prestataires de type réseau de recharge, fournisseur de solutions de recharge, etc., pour l'inclure dans l'offre et sécuriser vos clients?
Alors, on n'est pas sur un modèle tout compris, si je puis dire. Il y a des gens qui essayent d'aborder le problème sous un angle one-stop-shop, avec une solution clé en main ou toutes les composantes de l'offre. Voilà, on est assez sceptique de ce type de modèle. Hein.
D'accord.
Par contre, on a plein de boîtes amies, je dirais, côté recharge, côté télématique, côté différentes couches servicielles. Ce qui fait qu'en fonction des besoins clients qu'on voit, on peut ramener des boîtes et structurer des offres ad hoc. Mais voilà, on n'est pas sur un modèle clé en main. On est beaucoup plus flexible que ça en fonction des intérêts et des besoins. Mais comme vous dites très justement, il y a l'écosystème, il y a des gens qui font un milliard de fois mieux ce qu'ils font qu'on ne le ferait, jamais. Hein. Et donc, il faut avoir les bons contacts avec les bons acteurs pour offrir des bonnes solutions aux clients.
Très bien. David, j'ai une dernière question à vous poser que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique?
Alors, je suis irrémédiablement citadin,
pas besoin.
Pas besoin. Mais par contre, quand je pars en vacances en famille, je loue à l'électrique. Mais je roule très peu.
Très bien. Merci beaucoup, David Salfati. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Pelican Mobility, une plateforme de smart leasing qui optimise le financement et les opérations des flottes de véhicules commerciaux. Merci.
Merci beaucoup, Eric.
Les auditeurs envoient les watts.
Dans le précédent épisode du podcast, nous avons eu un débat sur le freinage régénératif. Nous vous avons donc invité à réagir sur ce sujet dans notre groupe WhatsApp. Voici vos réponses.
Salut, c'est Roland de Grenoble. Petit témoignage par rapport au podcast. On a pas mal parlé de la régène et de l'éco-conduite. Alors, je rejoins Sébastien sur le fait que, comme il le sait, moi aussi j'ai eu deux LEAF. Donc en fait, c'était pas du tout la même façon de conduire, et surtout sur la première LEAF. J'avais une batterie de 24 kW, on était à même d'optimiser au maximum. Donc c'est vrai que le jonglage entre neutre, mode B et mode drive, je l'ai connu. C'était plutôt sympa d'ailleurs, cette course à l'efficience. Depuis que j'ai la Model 3 maintenant, j'avoue que je suis toujours en mode régène normal, quoi, maximum. Et j'ai pas trop testé le mode rampage, parce que c'est un mode qui me convient pas, parce que quand on lâche l'accélérateur, tout de suite ça avance. Ça me convient pas trop, en fait. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y aurait un vrai mode régène où on peut régler, ça serait un plus. En tout cas, là, actuellement, avec la Model 3, je suis à peu près entre 17 et 18 kW au 100. Donc c'est quelque chose qui me convient. Alors j'habite près de Grenoble, donc j'ai un peu de descente, un peu de montée. Donc c'est plutôt efficient, je pense aussi, par rapport à ça. Sinon, je fais pas mal d'autoroutes et c'est plutôt efficient en roulant, bien sûr, entre 110 et 120, quoi. Voilà.
Bonjour à tous, Jérôme de Paris. Merci de mettre le sujet du frein régénératif sur la table. On entend, on lit plein de choses sur ce sujet, avec parfois des positions assez tranchées, assez sévères même, on peut dire. Comme souvent, il n'y a pas de bonne réponse, je pense, car cela dépend de plein de paramètres. Le type de parcours, roulant, moins roulant, le type de véhicule, présence ou pas de one pedal, possibilité de régler le frein régénératif, et aussi, et peut-être surtout, la sensibilité du conducteur et de ses passagers. Donc une fois dit cela, on peut réfléchir à quelle est la façon la plus efficiente d'utiliser la régène en décélération. Si on prend l'exemple, je sais pas, d'un véhicule qui roule en stabilisé à 70 km/h, à 400 mètres, un feu passe rouge. Quelle est la façon la plus efficiente de parcourir ces 400 mètres? Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il vaut mieux décélérer progressivement en maximisant le freinage régénératif par la machine électrique et en minimisant le freinage aux plaquettes de frein. À l'inverse, la conduite la moins efficiente serait de décélérer trop fort, puis trop tôt, puis d'accélérer ensuite, puis de décélérer à nouveau jusqu'à l'arrêt au feu rouge. Donc, on entend souvent dire qu'il faut un fort freinage régénératif, je ne suis pas du tout d'accord. Il faut surtout un freinage régénératif facilement dosable pour l'adapter au mieux à la situation de vie en circulation. Dans l'exemple que j'ai cité précédemment, moi personnellement, je préfère utiliser un mode roue libre, surtout pas le mode break, et doser à la pédale de frein la décélération nécessaire, sous réserve bien entendu que l'on dispose d'une régène à la pédale de frein. C'est d'ailleurs facilement contrôlable sur le powermètre au niveau du tableau de bord. On identifie facilement si on freine avec la machine électrique ou si on freine avec les plaquettes. Ensuite, bien sûr, quand on dispose d'un véhicule à one pedal ou avec un réglage fin de la régène avec les palettes derrière le volant, on obtient à peu près la même chose, je pense. Mais activer le mode break en permanence, sous prétexte qu'il y a une forte décélération ressentie, pour moi, c'est pas la bonne solution. Il faut surtout avoir la possibilité de régler cette décélération pour s'adapter exactement aux conditions de circulation. Voilà ma position. Merci et puis à bientôt.
Salut, c'est JC d'Arcachon. Alors, nous, sur la chaîne EV, on avait fait il y a quelques mois une grande étude sur la voiture électrique et on a eu 2700 personnes qui ont une voiture électrique qui ont répondu. Donc, c'est assez représentatif. Donc, il y avait des questions sur le freinage régénératif, donc. Et 93% des gens ont répondu qu'ils préféraient une voiture qui ralentit fortement au lever de pied de l'accélérateur. Donc, une grosse régène contre seulement 6% des gens qui préférait une régène faible, un peu comme un véhicule thermique. Ensuite, il y a une autre question. On a eu 64% des répondants qui disaient préférer choisir leur force de régène une fois pour toutes et ne plus jamais y toucher, contre 33% qui, eux, préféraient pouvoir moduler la force du freinage régénératif via des palettes, donc à la mode Renault Mégane ou Hyundai Kia. Et le reste déclarait ne pas savoir vraiment quel était leur fonctionnement préféré. Et puis, dernière partie qui est quand même très intéressante, c'était sur One Pedal. 39% des gens qui n'ont pas de One Pedal actuellement veulent une voiture One Pedal comme prochain véhicule, contre 92% des gens qui ont actuellement une voiture One Pedal qui veulent que leur prochaine voiture soit One Pedal. C'est-à-dire que le One Pedal, l'essayer, c'est l'adopter. Voilà. C'est tout. Merci.
Bonjour à tous, Franck de Béziers. Moi j'ai une 208 et une 2008. Je ne connais que ces deux voitures, je n'ai conduit que ces deux voitures. Donc pas de one pedal. Donc je décélère à l'approche d'un rond-point en levant le pied. J'anticipe beaucoup. Et si je vois que je n'ai pas assez de freins, j'appuie sur le mode break. Voilà comment je fais. Laisser le mode break en permanence en pleine. Moi, j'habite à côté de la mer. J'ai l'impression que voilà, ça fait forcer la voiture, mais peut-être que je me trompe.
Bonjour, c'est Florent de Paris. Déjà, je trouve que le frein régénératif, c'est intéressant parce que on n'a plus l'impression de gaspiller de l'énergie à chaque fois qu'on veut ralentir ou freiner. Et c'est aussi ça qui est intéressant sur la voiture électrique. Ensuite, le frein régénératif et notamment le one pedal, ça apporte beaucoup de confort de conduite en ville parce qu'on n'a pas à passer d'une pédale à l'autre en tant que conducteur. En tant que passager, ça permet également plus de fluidité sur le transport, donc c'est assez agréable. En revanche, sur voie rapide, personnellement j'ai une Kia et lorsque je désactive le régulateur de vitesse, on a un à-coup à cause du frein régénératif. C'est pas toujours facile à gérer. On peut essayer d'abord d'écraser un peu l'accélérateur pour limiter cette décélération, ou alors essayer d'anticiper et se mettre plus ou moins en roue libre auparavant, mais après c'est pareil, en utilisant les palettes pour augmenter le niveau de régénération, on a aussi des petits à-coups. Donc globalement, un peu mitigé sur voie rapide pour les décélérations, même si bien sûr c'est très intéressant de récupérer une énergie cinétique qu'on a lorsqu'on sort d'une voie à 130 km/h.
Bonjour, c'est Christophe de l'association AFUV. Pour ma part, je suis passé d'une Ioniq 28, donc avec les palettes au volant, à une Tesla Model 3, donc plutôt le mode One Pedal. Alors autant j'appréciais effectivement de pouvoir régler avec les palettes le freinage régénératif et éventuellement passer en mode roue libre, autant je trouve quand même le mode One Pedal beaucoup plus agréable et plus simple en fait, même si je l'admets, il est peut-être un peu moins efficient. Malgré tout, on arrive à moduler avec la pédale d'accélérateur. Je trouve qu'avec les palettes, je me tracassais peut-être un peu trop. Et le One Pedal me permet de finalement de me libérer l'esprit et je me prends plus la tête.
Bonjour, Bernard de Paris. En ce qui me concerne, le freinage régénératif sur ma voiture, qui est une Kia Eniro, avec laquelle je roule depuis près de 3 ans maintenant, eh bien, j'avoue que c'est un vrai bonheur. Alors, j'utilise pas tellement ce freinage régénératif pour économiser de l'énergie, enfin, du moins récupérer, mais principalement, pour tout simplement pour ne pas user les plaquettes de frein. Alors, on constate d'ailleurs à chaque révision que les plaquettes sont quasi neuves au bout de 2-3 ans. Preuve en est que le freinage électrique fait effet. Et puis, peut-être un angle un peu différent de l'observation que j'ai en 3 ans d'expérience sur cette voiture, c'est tout simplement que ma femme, je ne sais pas si d'autres ont la même réflexion, mais elle déteste le freinage électrique, tout simplement que ce freinage régénératif lui donne mal au cœur. Et j'ai droit à des réflexions régulières, mais j'ai mal au cœur dans la voiture parce que comment tu freines, etc. Bon, elle n'arrive pas à comprendre que c'est un principe de freinage différent et peut-être que ce freinage donne mal au cœur. Ça serait intéressant d'avoir d'autres remarques de ce point de vue, si d'autres personnes ont la même sensation de mal au cœur. Lorsqu'elle conduit, elle n'a pas ce mal au cœur, mais elle refuse de l'utiliser de crainte d'avoir encore ce trouble. Alors, elle utilise tout simplement les freins hydrauliques dans la voiture. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur le freinage régénératif et l'expérience d'un automobiliste depuis 3 ans.
Bonjour à toute la communauté automobile propre et du véhicule électrique. Antoine de Paris, je conduis une Tesla Model 3 SR Plus de 2021 qui a été quasiment depuis le début en mode serrage, c'est-à-dire one pedal. Et autant vous dire que je m'y suis habitué en à peine quelques jours et qu'aujourd'hui je conçois pas de conduire autrement. Je suis fan du freinage régénératif et surtout quand il permet l'arrêt complet du véhicule. Au-delà de l'intérêt énergétique que ça a, parce qu'évidemment ça permet de remettre un peu de jus dans la batterie, je trouve que ça apprend presque à conduire, parce que ça aide vachement à anticiper. Donc il y a un aspect sécuritaire à l'approche des intersections, des feux rouges, de l'attention qu'on porte aux autres véhicules autour de soi. Un aspect écologique évidemment aussi, puisque c'est une façon aussi d'apprendre l'éco-conduite. Et puis il y a l'intérêt qu'on connaît tous aussi autour de la sauvegarde des freins, puisqu'on les utilise rarement, et peut-être même parfois trop rarement. Je suis par contre très curieux de l'expérience des palettes au volant, palettes de régénération, parce que j'ai jamais testé et j'avoue ne pas comprendre l'intérêt, puisque par défaut avec le One Pedal, on peut moduler avec son lever de pied la force de régénération et simuler une roue libre en levant le pied juste comme il faut. Sur les Tesla, c'est une petite barre de puissance qui est noire et qui va vers la droite quand on accélère, qui devient verte quand on régénère et qui va vers la gauche à ce moment-là. Mais je sais que sur une Zoé, c'est une petite aiguille comme un contour sur un moteur thermique qui peut aussi être pile au milieu entre la régénération et l'utilisation de puissance. Donc ouais, je serais assez curieux d'utiliser les palettes au volant parce que j'en comprends pas vraiment l'intérêt. Et si certains ont des témoignages là-dessus, bah, je serais prêt à avoir leur avis volontiers parce que je n'ai encore jamais pu tester. En tout cas, la régénération, le jour où je renouvelle mon véhicule, la présence du mode One Pedal sera un élément essentiel de mon choix, parce qu'aujourd'hui, je ne conçois pas avoir un véhicule électrique qui ne dispose pas de cette fonctionnalité.
Bonjour à tous, Grégory de Verdun-sur-Garonne. Pour ma part, ça fait 5 ans que je roule en Renault Zoé, donc je n'ai pas la chance d'utiliser le One Pedal au quotidien. Pour autant, j'ai pu tester le système sur 3 véhicules différents, sur des longues distances. Il y a un an, c'était sur une Tesla Model 3. À Noël dernier, c'était sur une Polestar 2. Et la semaine dernière, c'était sur une Mustang Mach-E. Alors le système One Pedal, je le trouve très intéressant, mais j'ai pu constater que le confort n'était pas le même d'une voiture à une autre. Typiquement, si je devais les classer, je commencerais peut-être par la Mustang Mach-E que j'ai essayé la semaine dernière, donc, et qui a été peut-être la moins agréable expérience. La voiture est très puissante, elle accélère très fort, elle régénère très fort, et du coup, le confort n'est pas évident à trouver. J'ai pas réussi à trouver l'équilibre pour ne pas avoir des freinages très puissants ou des accélérations trop puissantes. J'ai essayé de doser à l'accélérateur, mais voilà, le point d'équilibre n'est pas évident à trouver, et du coup, je ne garderai pas ça comme une expérience hyper agréable et confortable, même si ça fait le job. Ma deuxième expérience, du coup, si je devais la classer, ce serait la Tesla Model 3, donc j'espère que je ne vais pas me prendre des coups de pelle, qui a été quand même une très très bonne expérience. Assez facile de gérer l'endroit où on veut s'arrêter ou autre. Néanmoins, je trouvais quand même que la régénération dès le départ était très puissante et très forte, et que voilà, si on oubliait un petit peu de doser à la pédale, c'était un petit peu compliqué. Et la meilleure expérience que j'ai eue, vous me voyez venir, ça a été avec la Polestar 2 sur près d'une semaine et 2000 km, où là, je ne sais pas, je trouve que le système est extrêmement bien calibré, c'est-à-dire que la régénération commence de façon très douce et très rapidement et très progressivement augmente, un petit peu comme je le fais quand je roule naturellement et que j'aborde un rond-point. Je ne me mets pas à freiner à 50 mètres comme une mule. Et là, la voiture freine très progressivement, et du coup, on a très facilement la possibilité de gérer à la pédale pour vraiment choisir le volume et la puissance de la régénération. Donc ça, c'était à basse vitesse. Et sur les voies rapides, je sais que Florent a laissé un message audio où il parlait de cela. C'était la façon également de ne pas avoir des à-coups trop puissants lorsqu'on coupe le régulateur de vitesse. Avec la Polestar 2, ce que j'ai trouvé très facile à faire, c'est, avant de couper le régulateur de vitesse, d'appuyer très légèrement sur la pédale d'accélération. Pour autant, la voiture ne va pas accélérer. C'est comme si le système comprenait que si on appuie tout doucement sur la pédale d'accélération, alors je ne change rien. On coupe le régulateur de vitesse, on se retrouve en roue libre. Et très facilement, il est possible de moduler la puissance régénérative, la puissance de régénération du frein. Et j'ai trouvé ça hyper agréable, hyper intuitif. Et ça permet de n'avoir aucun à-coup. J'ai entendu une autre personne qui laissait un commentaire comme quoi sa femme était malade au volant. Ce que je peux comprendre, parce que voilà, il y a quelques voitures où le frein régénératif est très puissant, voire trop puissant dès le départ, et ça donne des à-coups désagréables. Et j'ai pu en faire également l'expérience, mais une expérience positive comme des expériences négatives. Et je ne donnerai pas de point de vue sur les palettes au volant que je ne connais pas. J'ai jamais essayé, alors peut-être que c'est pareil que le One Pedal, quand on l'essaye, on l'adopte. Pour ma part, j'ai arrêté de jouer avec le sélecteur de vitesse, entre guillemets, de ma Zoé. Il m'arrivait de passer en roue libre, en mode D ou en mode B, ce que je ne fais plus depuis déjà 2-3 ans, parce que au final, je n'en vois pas l'utilité, et que tout se passe très très bien à la pédale. Merci beaucoup, bonne journée à tous.
Bonjour. Alain de Cholet. Alors moi j'ai un Hyundai Kona 64 version 2023. J'ai choisi ce véhicule principalement pour son efficience, la taille du véhicule, il fallait un véhicule plutôt petit, et aussi les palettes au volant que j'utilise beaucoup pour profiter au maximum de la roue libre sur les phases de croisière et hors agglomération. J'utilise aussi les palettes pour décélérer, pour récupérer le maximum d'énergie tout en dosant le niveau, suivant les besoins, suivant la pente, suivant la distance de freinage. Alors la palette aussi me permet de pouvoir m'arrêter complètement, vu que ce véhicule n'a pas d'arrêt en fait avec la pédale d'accélérateur. Il va plutôt ramper. Et puis certains disent que les palettes sont inutiles, qu'il faut les retirer des véhicules. Pour moi, bien au contraire, c'est plutôt utile parce qu'elles permettent de pouvoir modifier la régénération en toute sécurité, sans passer par l'écran ou sans passer par un bouton comme break sur certains modèles, pas forcément situé au bon endroit et dans le champ de vision. Ça permet de pouvoir avoir une conduite économique en modifiant, en modulant la régénération et la roue libre, et de profiter d'avoir des consommations plutôt efficientes. Voilà, merci pour le podcast, à bientôt, au revoir.
Bonjour à tous. Je rejoins entièrement JC là sur la gestion du One Pedal Tesla. J'ai eu aussi l'occasion d'essayer la Model S Plaid, qui est une voiture avec une accélération complètement folle. Et donc configurée en mode Plaid, c'est une voiture qui est extraordinairement bien gérée au niveau de l'accélération, parce que vous pouvez la conduire comme un papy tranquillement, avec une conduite coulée. Vous avez 1000 chevaux sous le pied droit et vous pouvez doser de 1 cheval à 1000 chevaux, mais vraiment très très précisément. J'ai vraiment trouvé ça bluffant. La voiture, on peut être scotché au siège de manière extrêmement violente, et on peut aussi faire une petite accélération légèrement vive et puis tout de suite la doser. Enfin, c'est vraiment une précision extrême, et j'ai rarement vu des voitures puissantes aussi bien dosées. J'ai déjà conduit des thermiques sportives très puissantes, et je trouvais que c'était assez compliqué de doser l'accélérateur sur notamment une Ferrari. Je trouvais que c'était assez compliqué et brutal. Et là, on a 1000 chevaux sous le pied droit et on peut les doser, mais avec une précision infime. Et on peut vraiment conduire avec un One Pedal vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que Tesla est sur ce point-là extrêmement bluffant, quoi.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut !